Donc, Romains chapitre 13, on passe à un autre chapitre. Romains chapitre 13, c'est encore des instructions pour l'enfant de Dieu. Hein. Donc, nous avons vu dans les premiers chapitres, il nous parlait de ce salut, cet évangile de Dieu, hein, comme il l'a dit dans le chapitre 1. Et maintenant que nous avons ce salut, hein, il nous considère comme ceux qui ont cru par la foi, et qui ont reçu cette grâce, que le pardon de Dieu, la rémission des péchés, et maintenant nous devons vivre. Alors nous avons vu tout le chapitre 12, nous arrivons au chapitre 13, et c'est un sujet qui pourrait étonner, mais heureusement que Paul a traité de ce sujet, et il s'agit de l'attitude de l'enfant de Dieu devant le gouvernement humain. Hein. Donc je vais lire les premiers 7 versets, hein, Romains chapitre 13 et versets 1 à 7. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que nous vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà, donc première lecture, si c'est la première fois qu'on le lit, la personne tout d'un coup, elle a plein de questions, et c'est un passage qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, hein, et le nombre de cas de conscience à laquelle on peut penser en lisant ce passage, eh bien, sont innombrables. Hein. C'est souvent la discussion dans des groupes, c'est des cas de conscience et comment appliquer ce passage. Ce qui est certain, c'est que c'est la parole de Dieu. Hein. Donc, c'est à nous de voir et de comprendre et de nous situer par rapport à cela. Et parlant de cas de conscience, l'apôtre Paul lui-même, hein, il est là, il est vivant, il se trouve dans une situation de cas de conscience. Parce que il écrit cette lettre à des chrétiens qui sont à Rome. Et l'empereur qui est à Rome, c'est Néron. Et certains le qualifient d'un pervers narcissique. Et donc c'était pas facile d'écrire ce que Paul a écrit à cette époque et à ces chrétiens. Et de leur dire, voilà l'attitude que vous devez avoir par rapport aux autorités supérieures, alors qu'on a affaire avec un homme tel que Néron. Ben, heureusement pour nous, c'est justement pour cela que Paul écrivait, hein, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, pour donner à l'Église, aux enfants de Dieu, une instruction, comment nous comporter par rapport à ceux qui sont en autorité, hein, les gouvernements humains. Et surtout dans une situation telle que celle qui était à Rome, et nous pouvons penser à pas mal de situations semblables de nos jours. Je pense qu'il y a très peu d'États où les gens se sont parfaitement à l'aise. Le gouverneur, c'est exactement ce qu'on a besoin, et on l'aime, et tout va bien. Hein. C'est pour les chrétiens partout dans le monde entier, quelle que soit la situation, quels que soient les régimes, Et puis, bien sûr, vous pensez à des gars comme Hitler, mais il y avait des chrétiens à l'époque aussi, hein, qui devaient vivre en Allemagne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se comporte? Quelle est l'attitude que je dois avoir? Alors, premièrement, et c'est ce que Paul fait dans ce passage, hein, dans ce verset 1, hein, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que l'institution du gouvernement humain, c'est quelque chose que Dieu a établi. C'est Dieu qui a donné à l'homme cette possibilité, à certains hommes, la possibilité de régner au-dessus des autres. Et je vais un peu développer cela. C'est une institution de Dieu, donc le gouvernement humain est une institution de Dieu, comme le mariage est une institution de Dieu, comme l'Église est une institution de Dieu. Donc c'est lui qui établit les règles, c'est lui qui avait une pensée, et c'est à nous de nous aligner sur sa pensée. C'est vrai que ces institutions, hein, que ce soit le mariage, que ce soit le gouvernement humain, eh bien, ce sont des institutions qui ont été établies par Dieu, et c'est pour ça qu'elles sont tellement attaquées, hein, et au point qu'elles sont presque dénaturées. Ça ne ressemble même plus à ce que Dieu a prévu. Hein, ça, c'est une réalité. Et nombreux sont ceux qui vivent sous cela, hein, que ce soit le mariage, que ce soit le gouvernement, et parfois même l'Église, hein, qui porte le nom de Christ. Ces institutions, eh bien, on va se concentrer sur le gouvernement humain, et c'est souvent le siège d'un nombre illimité d'abus et de déformations. Et je pourrais continuer, mais je ne vais pas le faire. Combien de choses sont faites au nom de ces institutions? On se sert de l'institution pour en faire ce qu'on veut, et puis surtout du tort. Et donc, ce n'est pas parce que l'homme s'en sert pour accomplir des projets cruels ou pour satisfaire des passions corrompu ou pour dominer sur les croyances des hommes, c'est pas pour cela que l'institution est mauvaise. Hein, c'est parce que l'homme l'a pris et puis il s'en sert pour ses propres intérêts et il reflète ce qu'il a dans son cœur. Mais l'institution est bonne. Hein, si je prends des exemples, c'est le feu c'est une bonne chose, mais bon. On peut s'en servir pour faire du mal. Un couteau, c'est une bonne chose, hein, mais en même temps, ça peut servir à faire beaucoup de mal. Donc, si on ne condamne pas l'objet, c'est l'utilité, c'est l'homme qui la manie qui est le problème. Ce n'est pas l'institution. Et le gouvernement humain, c'était une chose que Dieu a donnée, c'est pour maintenir de l'ordre, pour établir et maintenir la justice. Après, les hommes s'en ont accaparés pour faire toutes sortes de choses. Et c'est là le problème. Hein. Et donc, l'attitude, et vous allez voir, c'est ce qu'on veut faire ressortir, c'est que je continue à reconnaître que l'institution vient de Dieu, et je la reconnais. Ça ne veut pas dire que j'approuve tout ce qui est fait avec. Hein. Et donc, pourquoi, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, ils étaient innocents, il n'y avait pas le bien et le mal, et donc Dieu n'a pas donné de gouvernement humain. Hein, personne n'a été établi pour être une autorité et pour s'imposer sur les autres. Ça n'existe. La situation ne le demandait pas. Hein, il n'y avait pas le péché, le péché n'était pas là, et donc, tout le monde, ça se passait très bien. Devait se passer très bien. Mais dès que le péché est arrivé, et il y a eu la chute, et il y a eu le mal est arrivé dans le monde, et là, tout d'un coup, il y a un besoin. Et Dieu a dû, donc, inventer, créer une institution pour gérer le problème. Hein, la situation, par exemple, c'est avec Caïn, qui, motivé par la jalousie contre son frère, eh bien, a été, et puis il l'a tué, tout simplement. Comme ça, il ne me gênera plus. Mais après, Dieu a essayé de parler à Caïn, de parler à sa conscience, mais Caïn l'a rejeté, il n'a pas voulu, il ne s'est jamais repenti, et il a continué dans sa voie, et il a continué à vivre dans toute impunité. Il n'y avait rien pour l'arrêter, et il n'y avait aucune structure, il n'y avait rien, personne ne pouvait prendre une initiative contre lui pour un jugement, ça n'existe pas, il n'y avait pas d'institution qui permettait de le faire. Et les choses se sont développées jusqu'au déluge, et en fait c'est ça qui a causé, qui était la raison pour laquelle Dieu a permis un déluge et a prévu un déluge sur toute la terre. C'était justement parce que les choses s'étaient dégénérées au point où le résultat c'était un régime humain où c'est la méchanceté qui régnait. Dans Genèse chapitre 6, justement, il nous parle de cette méchanceté. Dieu a vu cette méchanceté partout. Et même, il dit de cette époque, ils ont rempli la terre de violence. Voilà ce qui est arrivé. Et comme il n'y avait aucune structure, aucun personne n'avait autorité pour exécuter, faire justice, rétablir le droit. Et donc, c'était arrivé à un point où on ne pouvait plus le supporter, et un point où Dieu, dans sa justice, eh bien, a fait justice, et il y a eu le déluge humain. Et donc, Noé, son épouse, et puis sa famille, donc 8 personnes, ont traversé le déluge, et c'est tout de suite après le déluge que Dieu a inauguré justement cette institution, Genèse chapitre 9, vous pouvez regarder avec moi, Genèse chapitre 9, et nous allons lire les versets 3 à 6, Genèse chapitre 9, et les versets 3 à 6, en fait, je pourrais commencer à lire déjà le verset 1 pour voir que justement vous allez noter qu'il y a un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, chapitre 9, verset 1, il dit « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Donc ça, Dieu l'avait déjà dit à Adam et Ève, donc il ne fait que réitérer ce qu'il avait déjà dit. Mais au verset 2, et voilà un changement par rapport à la relation avec les animaux, il dit « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal sur la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. » Et voilà, donc d'où un problème. Donc Dieu donne autorité des animaux, des hommes sur les animaux. Il dit « Tout ce qui se meut et qui a vie pour vous, vous servira de nourriture et je vous donne cela comme l'herbe verte. » Donc c'est à partir de ce moment-là que l'homme devient consommateur de chair comme il est consommateur de végétaux. Mais au verset 4, il met une limite parce qu'il veut souligner la sainteté de la vie. C'est là où il le marque. Il dit « Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi que je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Donc là, Dieu institue, dès le début, donc il n'y a que 8 personnes qui vivent, il dit, écoutez, Il y a une chose nouvelle. Vous pourrez vous nourrir de chair, ça c'est une chose, mais pour vous rappeler que la vie, ça vient de moi, hein, que c'est important, il dit, vous ne consommerez pas le sang, hein, donc vous respecterez le sang, et il dit, et surtout, la vie ou l'âme de l'être humain. Il dit, je redemanderai des comptes à quiconque verse le sang d'un être humain, que ce soit un animal, que ce soit un homme. Hein, donc, il parle de l'homme qui fera justice auprès d'un autre homme, son frère, parce que le sang a été répandu. Donc Dieu établit la sainteté de la vie, hein, c'est important. Et donc à chaque fois que nous le sang, c'est le symbole, hein, le symbole physique de la vie. Et donc il en fait un symbole. Et c'est vrai que de nos jours, le sang coule pour un rien. Et on est même choqué la facilité avec laquelle certains répandent le sang. Mais Dieu, c'est pas Dieu avait prévu. Il a dit non. Chacun vivra avec cette conscience que s'il répand le sang, s'il ne respecte pas la vie, eh bien, il devra rendre des comptes. Et des comptes sérieux, hein, parce que le principe, c'est la vie pour une vie. Donc, et Dieu établit, donc, le but, c'est pas de pouvoir mettre des gens à mort, le but, c'est de pouvoir faire justice. Hein, c'est pour maintenir la justice. Hein, le problème avec Caïn, c'était justement le crime. Et Dieu, il veut, puisqu'il est en train, on reprend à zéro, dans un sens, après le déluge, on commence à une page neuve. Eh bien, c'est à partir de là, on veut la justice. Et donc, Dieu établit cela. C'est très simple. Il n'y a pas un livre de loi. C'est très simple. On respecte la vie. C'est tout. Et parce que pour Dieu, la vie, c'est important parce que c'est quelque chose que lui a donné. C'est lui qui a insufflé ça dans les narines de Adam. Donc ça vient directement de lui. C'est quelque chose de très personnel qu'il a confié à l'être humain. Et donc il dit, mais c'est pas à vous, hein, c'est à moi. Vous, si je le donne, c'est pas à vous de le reprendre à quelqu'un. Hein. C'est à moi de le reprendre, mais pas vous. Hein, c'est moi qui l'ai donné. Et c'est ce concept-là, et c'est important pour nous de revenir à la pensée originale que Dieu avait, et afin de pouvoir ainsi réguler notre vie, et nos valeurs, et notre manière de voir la vie et d'interpréter les choses. Donc, donc je reviens à Romains chapitre 13, donc c'est dans ce contexte-là, et c'est ce à quoi Paul fait référence dans ce premier verset. Donc je relis maintenant le verset 1 du chapitre 13, de Romains chapitre 13. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Il parle de cette institution et des personnes qui représentent cette institution, et donc c'est quelque chose que Dieu a établi, et donc je le respecte. Je reconnais comme étant quelque chose que Dieu a confié à l'homme, justement pour notre bien, hein, pour éviter que les choses deviennent ce qu'elles ont été avant le déluge. Et donc au verset 4, hein, de Romains 13, donc il dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, et si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Donc l'épée, c'est quelque chose que Dieu a confié à un homme pour maintenir la justice, pour établir la justice, pour que chacun reçoive justice et vive dans un régime où il y a la justice. Donc c'est pas l'homme qui a pris l'épée. C'est Dieu qui lui confie, et c'est une charge, une lourde charge, parce qu'on sait combien Dieu considère, quelle valeur il donne à la vie, et l'homme ne doit pas prendre l'épée pour verser le sang à tout bout de champ. Hein, et c'est en fait ce qui nous fait réagir, et c'est avec raison, c'est l'injustice qui existe, et que même ceux qui ont ce pouvoir, eh bien, abusent de ce pouvoir, et combien de pouvoirs abusent de cela. Hein, et c'est ça qui... Le problème, ce n'est pas l'institution, c'est la manière dont les hommes gèrent cela, ou s'en accaparent pour leurs propres intérêts. Donc, pour l'enfant de Dieu, le comportement est celui d'obéir aux autorités établies, mais non pas parce qu'elles sont justes ou parce qu'on approuve, mais parce que l'institution représente Dieu et nous respectons ce qu'il a établi. Hein, donc, quand je me conforme aux lois et à ce qui se fait, en fait, pour l'enfant de Dieu, c'est pas la crainte du gendarme c'est parce que l'institution, c'est Dieu qui l'a créée, donc il la respecte. Hein? Et donc, c'est pas parce que j'approuve, parce que je trouve que c'est très bien, que ça me plaît ou que ça m'arrange, pas du tout. C'est Dieu qui a établi l'institution, je la reconnais. Hein? C'est comme on est choqué lorsque si des gens vont taguer le palais de l'Élysée. On dit non, ça c'est un symbole de l'État, on n'y touche pas. Hein, il faut le respecter. Le gouvernement humain, c'est aussi une institution de Dieu, et donc c'est notre manière de respecter Dieu. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on pouvait penser ce que vous voulez de celui qui habite dans le palais de l'Élysée, mais le palais de l'Élysée, on le respecte. Pourquoi? Parce que ça représente un gouvernement qui doit défendre chaque citoyen et qui doit garantir la liberté, l'égalité et la fraternité de chacun. Ça se fait pas, j'en discuterai pas ici. La question c'est, mais l'institution, donc le gouvernement humain, c'est quelque chose que Dieu a établi et donc je me plie. Et bon, en France, on peut trouver ça un peu difficile, mais je connais d'autres pays où c'est quand même encore plus difficile de se plier sous l'autorité du gouvernement humain. Hein. Mais la règle, c'est je respecte ce que Dieu a institué, le gouvernement humain. Et les hommes au pouvoir devront répondre à Dieu pour la manière dont ils auront rempli la charge qui leur a été confiée. Hein, déjà, les humains sont conscients de ce besoin. C'est pour ça qu'on a la Hague, on a Hollande, hein, où on peut des gouverneurs, des hommes au pouvoir qui ont abusé de leurs droits, eh bien, ils peuvent être amenés en justice à la Hague. Déjà, chez les hommes, on est conscient de cela. Hein, y a quelque chose en nous qui, on sait que c'est ça. Comprenez que au-dessus de tout ça, c'est Dieu qui a donné cela, et c'est pour ça que nous nous trouvons normal qu'il y ait quelqu'un qui puisse garantir la justice et le droit de chacun. Hein, c'est le gouvernement. Et donc, lorsque je me plie et je respecte, eh bien, en fait, je suis en train de respecter une institution de Dieu. Et c'est le comportement que doit avoir l'enfant de Dieu. Hein. Donc, s'il se trouve à Rome, et l'empereur, c'est Néron, eh bien, non, c'est quand même vrai. Hein. Nous avons des exemples bibliques hein, du comportement de certains qui, dans des situations très difficiles, se sont soumis aux autorités, alors que ces autorités ignoraient même que Dieu existe ou le reniaient. Des rois, des présidents, des dictateurs peuvent se vanter d'avoir gagné le pouvoir par la force, par la manipulation, par je ne sais quoi. Mais un jour, ils devront rendre des comptes. Et un jour, eh bien, ils seront obligés de dire ce qu'a dit Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, l'empereur à Babylone, hein, qui régnait sur toute la terre, et il nous dit dans Daniel chapitre 4 verset 37, et pourrait lire en fait le chapitre 4, vous verrez ce qu'il a vécu pour arriver à ce point-là, mais il dira: maintenant moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Lui est arrivé au point, après avoir passé 7 ans comme un animal à brouter de l'herbe dans les champs, eh bien, il a retrouvé ses sens, et puis là, il a déclaré, il a dit, moi qui étais l'homme le plus fort du monde, hein, il y a des hommes arrogants encore aujourd'hui qui se croient le plus fort du monde. Mais il dit, il sait comment les remettre à leur place. Il sait les amener au point. Il y a un moment où ils devront faire face et dire, non, j'ai mal fait. Nous avons l'exemple, par exemple, de Joseph, hein, dans l'Ancien Testament. Joseph, qui, tout d'un coup, il se retrouve, à cause de ses frères, des jalousies de ses frères, il se retrouve vendu en Égypte. Il se trouve dans une maison d'un homme païen qui ne connaît ni Dieu ni rien du tout. Il se trouve là. Mais il respecte cet homme, il travaille pour cet homme. En fait, il ne travaille pas pour cet homme, il travaille pour Dieu. Et même au point où, quand la femme de Potiphar vient pour essayer de le séduire, eh bien, il répondra, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Et parlant du maître, il dit, « Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Pour lui, c'est quand même Dieu qui est au-dessus. Hein? Même s'il a exécuté les ordres de Potiphar, et il a géré les choses comme Potiphar le voulait, finalement il l'a fait tellement bien que Potiphar était satisfait de son travail, et lui a confié tout, et il ne s'en occupait même pas. Mais dans l'esprit de Joseph, c'est « je sers Dieu ». Ce n'est pas Potiphar, je sers Dieu. Et Dieu a placé Potiphar au-dessus de moi, donc je le... C'est pas parce que Potiphar représentait quelque chose pour lui, c'est parce que Dieu représentait quelque chose pour lui, et que donc il va être fidèle à Dieu en servant Potiphar. Les enfants d'Israël se sont retrouvés, c'était dans de bonnes circonstances que les descendants d'Abraham et de Jacob se retrouvaient en Égypte. Hein, Joseph était au pouvoir, tout était bien, c'était un peuple qui était un peu favorisé. Bon, les choses ont changé, le pharaon a changé, les dynasties, hein, on gardait toujours les dynasties, mais il y avait quand même des renversements et des nouvelles dynasties qui n'avaient rien à faire avec les premières. Hein, et donc, ils s'appelaient toujours des pharaons, mais ce n'est pas forcément de la même famille. Et donc, tout d'un coup, il y a une dynastie nouvelle qui arrive, et qui prend le pouvoir, et tout d'un coup, eh bien, ce peuple qui était favorisé pendant un temps, eh bien, il ne l'est plus. Et il reçoit l'ordre de se soumettre, et il devient esclave. Et ce peuple se soumet, il ne se révolte pas. Ils auraient pu dire, ah non, 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 mais nous, on était avec Joseph, tout ça. Non, non, ils se soumettent. Et au point qu'il se trouve dans un esclavage, et il souffre terriblement. Mais ce gouvernement humain, bon, il n'est pas juste avec eux, mais quand le pharaon dit, vous prendrez les petits garçons et vous les jetterez dans le Nil, ils ne le font pas. Là, il y a une autorité supérieure. Hein? Alors là, ils vont pas le faire. Ils vont désobéir. C'est ça le principe, on suit, on se soumet à l'État autant que possible, même si ça nous coûte, mais quand ça va contraire à la valeur de Dieu, alors là on en s'arrête. Hein? Et c'est là, parfois ça crée ces situations où, par exemple, c'était Pierre et Jean, hein, que les pharisiens leur ont dit, écoutez, vous ne parlerez plus au nom de Jésus. On veut bien vous reconnaître, on veut bien travailler. Mais vous nous dites ne plus parler au nom de Jésus, alors on ne peut plus. Parce que là, le choix c'est entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Et alors nous là on est obligé d'obéir à Dieu. Peu importe ce que ça entraîne. Hein, et c'est une question de combien de chrétiens encore aujourd'hui se trouvent dans des situations où on leur demande de renier le Seigneur, on leur demande de changer de mode d'adoration, et dire, ah non, là on s'arrête. On veut bien, on paye les impôts, on travaille, et tout ça. On veut être des bons citoyens, mais quand c'est contraire à la volonté, à l'ordre de Dieu, alors là ils s'arrêtent. Hein, c'est ça que là ils ont fait. Quand Pharaon a dit, vous jetterez les petits garçons au Nil, au crocodile du Nil, alors là, ils ont dit non. Et Moïse a été préservé, et vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu viendra, il fera justice, parce que les hommes ne le font pas, Dieu interviendra, et le peuple d'Israël sera mené, hein, par, comme il dit, par un bras puissant, une main forte, et le peuple sera mené dans un, et leur confiera un territoire qui sera à eux, où coule le lait et le miel. Et donc, quand les institutions humaines ne font pas justice, eh bien, Dieu intervient. Je donne un autre cas, c'est David, par exemple. Vous connaissez le jeune David, Samuel, qui est le dernier des juges d'Israël. C'est celui qui a oint Saül pour roi. C'est lui qui oint David pour roi. Et David sait qu'il est oint pour être roi. Mais l'institution qui existe, c'est la monarchie de Saül. Il ne la combat pas. Il ne détruit pas. Il respecte. Et il va se soumettre. Bon, il faudra que pour sauver sa vie, il faudra courir, il faudra se sauver. Il va vivre dans les déserts, dans les rochers et dans les forêts pour sauver sa vie, parce que sa vie, et ça, c'est entre lui et Dieu. Mais quand il aura l'occasion de se venger de Saül, par deux fois, il aura Saül allongé là devant lui, et il pourra mettre fin à cela. Il dit, ah non, c'est loin de l'Éternel, je ne touche pas. C'était l'institution, c'est Dieu qui l'a oint, je ne touche pas, je ne peux pas toucher. Même s'il sait que Saül, s'il avait trouvé David allongé, ou même debout, il l'aurait éliminé. Mais pour lui, c'était, non, c'est pas Saül que je respecte, c'est ce que Dieu a fait. Hein, l'institution de Dieu que je respecte, l'autorité que Dieu donne. Et donc, et le résultat, c'est que, bon, c'est sûr qu'il fallait attendre un moment, mais éventuellement, David a eu un royaume, il était le roi d'un royaume glorieux. Hein. C'était le plus grand des rois d'Israël, hein, dans toute l'histoire. Et, bien sûr, après on pourrait parler de Daniel aussi, hein, Daniel qui, finalement, a été emmené, déporté. Il se trouve à Babylone, non pas parce qu'il veut, mais parce que toute sa famille est emportée. Et il se trouve là devant Nebuchadnezzar, celui qui a démoli le temple de Dieu, celui qui a peut-être tué ses parents, et il se trouve là devant lui. Eh bien, il se soumet à Nebuchadnezzar, il le sert tellement bien que le Nebuchadnezzar va l'élever au plus haut point. Non, c'était pas un homme qui était juste. Nebuchadnezzar, c'était pas un homme juste. Ce qu'il faisait n'était pas juste. Mais Daniel va le respecter. Il va le servir. Le résultat, ce qu'on voit, c'est que Nebuchadnezzar, il va mourir. Et en fait, Daniel, il va survivre 4 empereurs. Il va vivre dans 4 empires différents. Et il sera une personne respectée dans les 4 empires, jusqu'à l'empire perse. Et parce qu'il a respecté le gouvernement humain. C'est pas qu'il a approuvé, il l'a respecté. Bon, vous connaissez l'histoire des 3 jeunes là qui, quand le roi a dit vous allez vous prosterner devant cette idole, ils ont dit allons, là on s'en est. On respecte. On travaille avec tout ça, mais quand il faut renier Dieu et puis adorer ton idole, alors on ne peut pas. Il dit, vous allez dans la fournaise. Ah ben, on va dans la fournaise alors. Donc, c'est la question, c'est, oui, le gouvernement humain, on le respecte autant que possible, c'est pas qu'on l'approuve, mais c'est une institution de Dieu, mais quand il exige de nous un comportement qui va contrairement à ce que Dieu demande, alors là, ça s'arrête, et puis on dit, moi, bon, je ne peux pas aller plus loin. Et l'apôtre Paul avait un peu il se trouvait dans la même situation avec l'Empire romain. Et puis finalement, à cause des Juifs et tout ça, il se trouve finalement confié à Festus, à Césarée. Et Festus, sont passés en jugement. Il sait que Saul de Tarse, Paul, l'apôtre, est innocent. Et il devrait le relâcher. En plus, c'est un citoyen romain, il devrait le relâcher. Mais Festus, il voulait plaire aux Juifs, il nous dit dans Actes chapitre 24, le dernier verset, il nous dit il voulait plaire aux Juifs. Donc il laissait Paul là, puis je pense que aussi on le sent par ailleurs, que certainement qu'il voulait que Paul lui donne un peu d'argent et puis pour le relâcher. Et donc là, Paul il dit, c'est là où Paul, au chapitre Actes chapitre 25, verset 10, lui dit: je fais appel à César. Et justement, il fait appel aux institutions humaines. Il dit: je fais appel à César. Parce que là, je n'ai pas justice ici, c'est injuste, donc je fais appel à César. En tant que citoyen romain, il avait le droit. Il dit: moi, donc c'est, pour nous, c'est l'équivalent de la Cour suprême, hein, donc je vais à César. Et donc, puisqu'il a demandé, donc Festus a dû l'envoyer. Et puis Paul, il avait toujours voulu aller à Rome n'importe comment. Et il connaissait plein de monde. Hein. Vous lisez le chapitre 16 de Romains, vous voyez qu'il connaissait plein de monde à Rome, même s'il ne les avait pas rencontrés tous. Et il y va aux frais de l'empereur. Hein. Et il va, et il se retrouve là. Voilà. Ce qui est extraordinaire, et en lisant un peu l'arrière-plan historique là, de l'époque, bien sûr, je vous ai dit que c'était Néron qui était l'empereur, mais le chef du prétoire, hein, le préfet du prétoire, entre les mains duquel Paul est remis, hein, parce que bon, c'était Justus, hein, qui avait accompagné, hein, qui devait l'accompagner depuis Césarée, jusqu'à le remettre au prétoire. Le prétoire, c'est là où on mettait, c'est là tous ceux qui devaient comparaître devant l'empereur. Et donc on le confie. Et à ce moment-là, eh bien, du point de vue historique, hein, c'est pas dans la Bible, mais c'est dans l'histoire profane, c'est qu'il y avait un certain Burrus qui était le chef du prétoire. Et les historiens sont tous d'accord que c'était un homme probe et vertueux. Et c'est pas étonnant qu'on lise à la fin de Romains, fin des Actes des apôtres, là, que finalement, Paul, oui, prisonnier, mais en fait, il était dans sa propre maison, et puis il était très libre, et puis recevait du monde, et tout ça, c'était pas du tout. Dieu a pris soin de lui. Il a respecté les institutions qui existaient, même si c'était l'empereur romain. Il a respecté, et Dieu a pris soin de lui. Et donc, pendant qu'il se trouvait à Rome, et il écrira même aux Philippiens, dans Philippiens 1, 12 à 13, il dirait: or, mes frères, je veux que vous sachiez que les circonstances par lesquelles je passe, donc son emprisonnement, sont plutôt arrivées pour l'avancement de l'Évangile, en sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant en Christ, dans tout le prétoire et partout ailleurs. Le prétoire, c'était tous ces prisonniers qui doivent comparaître devant. Il dit: c'est manifeste, l'Évangile, j'ai eu une opportunité extraordinaire dans le palais de l'empereur. Et partout ailleurs, il dit: c'est vraiment, on pourrait penser avoir de la pitié pour moi, mais finalement, c'était une opportunité extraordinaire. Et il en parle dans sa lettre aux Philippiens, il leur dit: écoutez, mais Paul s'est conformé aux structures de l'époque. Et il a respecté les lois, et Dieu a pris soin de lui. Et on pense aussi que ce Burrus a pu un peu parler à Néron, et finalement, il a recommandé Paul, et finalement, Paul a été relâché. Hein. Donc, donc, les choses se sont bien passées, mais Dieu a pris soin. Mais ce que je veux dire, c'est que Paul a quand même respecté les structures, Hein, il était en tant que citoyen romain, il a respecté les structures romaines. Et donc, ici, dans ce chapitre 13, hein, Paul devra le mettre en pratique par la suite, hein, mais il nous dit, donc au verset 5, il dit, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, hein, ça c'est pas notre attitude, hein, c'est pas la crainte du gendarme, mais encore par motif de conscience. Hein, je suis conscient que c'est Dieu qui a établi cette institution, et donc par motif de conscience, je me conforme, je suis obéissant. Et voilà l'attitude que nous devons avoir. Non, donc nous sommes soumis aux autorités parce que nous reconnaissons que cela revient à être obéissant à Dieu. Donc voilà, même si je me conforme, même si c'est pénible, même si ça me va pas, même si c'est pas juste, je me conforme. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, c'est pour lui, il le prend comme une obéissance à lui, parce que je respecte cette institution qu'il a créée. Alors, et après, on voit dans dans ce chapitre 13 et verset 6, et donc il nous parle aussi du fait de payer les impôts, hein, c'est une chose sur des agréments, mais il a dit, mais oui, mais bon, une institution, ça se finance, et donc c'est les impôts. Après, il y en a qui abusent de cela, ça c'est un autre problème. Mais le fait de soutenir cette institution, hein, comme on soutient l'institution du mariage, il y a des finances dedans, comme l'institution de l'Église, il y a des finances dedans. Après, s'il y en a qui abusent, ça veut dire qu'il faut condamner l'institution. On condamne le mauvais comportement des uns qui dirigent l'institution. Et donc, alors Paul dira, verset 6 et le début du verset 7, il dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Et c'était dur, hein, pour les Juifs de payer les impôts, voyez, parce qu'ils n'étaient pas, ils voulaient pas payer. Il dit, mais c'est pas une question, c'est pas quand tu payes les impôts, c'est pas que tu approuves le régime, c'est parce que c'est une institution de Dieu, et donc tu payes ton devoir, tu fais ton devoir. Après, eux, ce qu'ils font, c'est leur problème devant Dieu. Il dit donc, verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. C'est-à-dire, eux, ils sont établis, ça a été établi pour établir la justice et pour défendre les droits des uns et des autres. Verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. Hein, et ça nous fait penser à une parole de Christ, hein, que quand les pharisiens, ils ont envoyé les hérodiens pour poser cette colle à Jésus, ils ont pensé que ce serait une colle, et pour Jésus, ça en est sorti tellement simplement, il a dit, mais rendez à César ce qu'il y a à César, et rendez à Dieu ce qu'il y a à Dieu, voilà, c'est tout. Et puis il n'y avait rien à dire, mais c'est ce même principe et que Paul nous enseigne. Et donc, mais rendre, et c'est là la deuxième partie du verset 7, il dit, et aussi, c'est pas seulement le fait de payer les impôts, puis après de maudire l'État, non, il dit, le verset 7, il dit, rendez à tous ce qui leur est dû, et après il dit, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Hein, donc, quelque part, cette attitude, hein, ce comportement, hein, c'est de respect parce que c'est l'institution de Dieu, non pas parce qu'on approuve l'homme. Et je continue, à une dernière pensée, regardez avec moi dans 1 Timothée chapitre 2. Donc, 1 Timothée chapitre 2, c'est Paul qui donne une instruction à Timothée, et c'est un peu, ça va dans le même sens. Mais c'est l'attitude que nous devons avoir. Donc, 1 Timothée chapitre 2, et je lis déjà les versets 1 et 2. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et il ajoute, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, Priez pour les institutions. Même si elles ne sont pas exactement tout ce qu'on voudrait, elles ne facilitent pas. Il dit, priez pour ces institutions pour qu'elles vous, au moins elles vous donnent la liberté d'adorer le Seigneur et de servir le Seigneur. Hein, même s'il y a toutes sortes d'autres choses, mais priez pour les autorités. Hein, tout à l'heure, le frère, dans la prière, il a prié pour les autorités de notre pays ici en France. Et donc, nous, et c'est ce que le Seigneur nous dit. Hein, c'est tout à fait l'exhortation, c'est notre attitude. Pourquoi ? Parce que l'institution est institution de Dieu. Hein. Et la deuxième raison, il dit d'abord parce que ça peut être, vous êtes favorable, hein, priez pour l'État pour qu'il soit et vous soit favorable, pour que vous puissiez vivre votre vie chrétienne pour le Seigneur en liberté. Et deuxièmement, il nous dit au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la deuxième raison pour laquelle nous allons prier pour ceux qui sont dans le pouvoir, eh bien, c'est pour qu'il y ait cette liberté, pour que tous puissent entendre l'Évangile et être sauvés, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Hein. Donc, c'est la réalité. Hein. Dieu, en fait, un pouvoir doit créer, doit garantir un ordre qui permet à ce que l'Évangile se propage librement, hein, que les gens puissent entendre et recevoir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, on nous dit, bon, on te laisse croire ce que tu veux, mais tu te tais. C'était un peu l'attitude que les apôtres ont rencontrée à Jérusalem. Mais là, il nous dit, non, priez pour qu'il vous laisse libre de partager, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Hein, et ils ne peuvent pas l'être s'ils n'entendent pas le message. Et nous comprenons aussi par là que, bien sûr, Dieu veut que tous entendent, parce que tous peuvent recevoir l'Évangile. Tous peuvent le recevoir, et s'ils le reçoivent, ils peuvent être sauvés. L'élection n'est pas un moyen d'écarter certains. Non, c'est le salut est pour tous. Et parce qu'il ajoutera, au verset 5, il dit « Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, tous les hommes. » Hein, il y a un médiateur pour tous, et il est là, et il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Comme on disait, il a une main humaine, il est né d'une femme, et il a une main divine, parce qu'il est du ciel, hein, de Dieu, hein, il est Dieu. Hein, donc il peut faire le lien, il est le médiateur, et si on a un médiateur comme lui, on n'a pas besoin d'autre. Et c'est lui qui fait. Et donc, Dieu nous a donné celui qui peut, et celui à qui nous pouvons faire appel. Hein. Et les chrétiens partout dans le monde, en particulier là où ils n'ont pas les libertés de vivre leur vie chrétienne, eh bien, ils sont constamment en train de faire appel à l'autorité supérieure, Dieu. Et donc, lorsque nous prions pour les autorités qui nous gouvernent, ou pour toute personne qui a une position d'autorité sur nous, hein, le principe s'étale, donc c'est notre employeur, ça peut être le gendarme, ça peut être tous ceux qui ont, eh bien, mon devoir, mon premier devoir, autant que c'est possible, tant que ça ne va pas contre ce que je dois à Dieu, eh bien, c'est de lui être soumis. Hein. Ce n'est pas une question de j'approuve ou j'approuve pas, c'est une question d'être soumis. Parce que il veut que, et donc il nous dit, je veux, au verset 8, de 1 Timothée 2, verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, donc sans péché, hein, des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Hein, donc quand je prie, et quand je prie pour l'État, c'est pas pour le critiquer et demander à Dieu de le maudire, mais c'est avec des pensées pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je dis, Seigneur, je veux que ton message puisse se propager et que des âmes soient libres de t'adorer et de te suivre. C'est tout ce que je demande. Sinon, je suis prêt à vivre comme Joseph sous Pharaon, comme Moïse sous Pharaon, comme David sous Saül, comme Daniel sous Nebuchadnezzar, comme Paul sous Néron. Hein. Seulement que je sois libre, et c'est pour ça qu'il a pu écrire quelque chose d'aussi positif aux Philippiens. Il a dit, moi je trouve une opportunité extraordinaire de propager l'évangile de Jésus-Christ. Et pour lui, c'était important. Et c'est l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. C'est avoir cette attitude. Bon, toutes les autres choses, c'est secondaire. Mais d'abord, oh, Dieu agit dans le cœur de ceux qui nous gouvernent pour que nous puissions adorer et vivre librement notre relation avec toi. Et prions, donc prions, et c'est important pour nous de prier pour le gouvernement, et en particulier chaque fois qu'il y a des élections, c'est important, parce que tout ça, ça influe sur comment les choses vont se passer par la suite, et donc nous devons toujours prier. En tant que citoyens, nous remplissons notre devoir, hein, s'il faut soit un devoir d'élire, on élit, on fait de notre mieux avec notre conscience devant Dieu, mais après, on dit, mais après, peu importe ce que est le résultat, parce que je reconnais Dieu, eh bien j'accepte celui qui règne. Hein. Et donc, et c'est là, au niveau local, au niveau quartier, au niveau tout, hein, on respecte les structures qui sont là, et ça fait partie de notre témoignage pour Dieu, et puis de notre bonheur. Il a dit, c'est dans votre intérêt. Hein. Donc, que le Seigneur nous aide, et on ne veut pas se laisser emporter par le comportement qu'ont beaucoup d'autres autour de nous. Nous voulons avoir le comportement de l'enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être fidèles et obéissants. Prions.